la réveillance and shout. Boisé sur le slide, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Dans le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Shiz 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Toi aussi, t'as une galette qui a marqué ton imaginaire et que tu réécoutes systématiquement? Eh bien, tu risques d'aimer mon disque est plus scratché que le tien. À chaque lundi, 11h, j'accueillerai un ou une invitée qui nous parlera de son album incontournable.
Laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie toute cette merde. Je dis laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie toute cette merde.
Ceci est un message de Gabriel Tremblay, plombier et créateur de contenu semi-officiel de Shiz 94.3.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Shiz 94.3.
Serge, quelle communauté sera saluée, voire bénite par votre voix ce soir?
On va saluer trois personnes qui produisent une émission de radio dans votre maison d'enfance radiophonique, Jean-Philippe.
C'est vrai.
Soit la station CHYZ 94,3.
Ouais.
À l'Université Laval à Québec, il s'agit de Patrick Couture, Émile Lapointe, François Provost, qui anime l'émission La planète des sages. Et on les félicite pour le titre de leur émission. La rumeur veut que leur concept soit inspiré en partie de l'émission C'est fou. Alors, Jean-Philippe et moi, nous sommes extrêmement flattés et on vous salue.
Oui, mentionnons que leur épisode de la semaine prochaine d'une durée de 90 minutes portera sur votre pensée et vos écrits, Serge. Alors, avis aux fans de Serge Bouchard, ça vous fera une belle heure et demie à vous mettre dans les oreilles. Le mot de la fin, je laisse à l'auditrice.
Lorsqu'on parle de l'homme, on mentionne inévitablement sa voix, à la fois grave et d'une douceur rassurante, une voix qui semble provenir d'une autre époque. Mais personnellement, peu m'importe comment Serge Bouchard dit ses mots, leur beauté réside dans ce qu'ils contiennent. Ce sont des mots qui respirent la lente réflexion. Le ton de notre mammouth laineux national est effectivement contraire à notre époque, et c'est parfait ainsi. Les voix d'aujourd'hui ont cette tendance à oublier leur raison d'être, porter avec elles une pensée. Alors que chez Serge Bouchard, la pensée habite complètement la parole. Et j'ajouterais que dans le monde intellectuel québécois, cette pensée fait office de l'une de nos plus grandes richesses naturelles. J'ai bien dit naturel, ou peut-être qu'il aurait été plus juste d'employer sauvage dans le sens digne du terme, comme l'entend M. Bouchard lui-même. Sauvage comme pur, comme libre, comme beau. Sauvage comme un paysage authentique dans lequel on voudrait se perdre une petite éternité de temps. Oui, c'est là que me transporte Serge Bouchard quand il prend la parole dans la pensée sauvage.
Je ne suis pas sage, puisque ma vie en témoigne.
Ma vie,
c'est une succession d'erreurs et de mauvais jugements et tout ça. Mais à force d'accumuler, effectivement, c'est moi la sagesse que le tempo, je dirais, notre époque postmoderne est extrêmement rapide. Mm-hmm. Extrêmement rapide. Les expériences humaines se succèdent. Mm-hmm. Et moi, je me suis installé dans une sorte de pas lent. Je n'ai pas le pas. Et c'est peut-être ça qui crie le charme.
Alors, bonjour et re-bienvenue sur la planète des sages aux ondes de Chiz 94.3. Je suis Émile Lapointe en compagnie de mes collègues François Provost. Bonjour.
Salut,
François.
Émile.
Et Patrick Couture. Bonjour, Patrick.
Salut, Émile.
Patrick, qu'on entendait en introduction, qui parlait du fameux Serge Bouchard. Non, on vient d'entendre la voix, cet anthropologue qu'on respecte et on admire beaucoup.
C'est un plaisir qu'on se fait aujourd'hui. Hein?
Absolument.
C'est un petit cadeau, là.
Absolument. Donc, cet épisode sera exceptionnellement long, c'est-à-dire 90 minutes, parce que c'est notre épisode cadeau. Puis, hein, les fêtes s'en viennent, on se fait un petit plaisir.
J'aimerais ajouter que c'est un des... Je crois que c'est le seul sage qu'on a abordé à l'émission que les trois, on a une grande connaissance. Ben, une grande connaissance. Du moins, à trois, on commence à avoir une papier connaissance de ce personnage-là.
Oui, oui. Puis je pense que ça va beaucoup teinter l'émission, là. Le fait que, tu sais, par exemple, j'ai parlé de Bruce Lee il y a peu de temps, mais Bruce Lee, moi, ça me suit. C'est l'apprentissage que j'ai fait à travers Bruce Lee, il est resté en moi. Mais c'est pas à tous les jours, là, que je pense à Bruce Lee. Parce que Serge Bouchard, je dois avouer personnellement, puis je pense que c'est le cas pour vous aussi, que sa pensée, tu sais, nous habite quand même assez quotidiennement. Là. Moi, en tout cas, personnellement, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une pensée qui me vient, que je fais comme c'est influencé par Serge Bouchard, ouais. Ça c'est sûr.
Ben, moi, étant un grand fanatique de C'est fou, c'est au moins une fois par semaine qu'il y a une heure de mon temps qui est consacrée à entendre la voix de Serge Bouchard et de Jean-Philippe Plot. Mm-hmm. Donc, une excellente émission aux ondes de Radio-Canada le dimanche soir.
Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on va peut-être un peu plus tomber dans, ben pas l'éloge à proprement parler, mais ça se peut qu'on soit là un peu plus enthousiaste, ouais, tous ensemble cette semaine. Puis en plus, on s'entend que Serge Bouchard, comme tu l'as dit, on le considère comme un sage, mm-hmm. Peut-être plus. Tu sais, on a la sagesse lousse, que j'aime dire. Là. On va retirer de la sagesse de figure populaire, tandis que là, on part avec la prémisse qu'il est sage, malgré ce qu'il disait dans l'extrait qu'on a fait jouer.
On a bien aimé faire un petit paradoxe en début d'émission. Et François mentionnait que c'était une émission qui est spéciale, justement, mm-hmm. Puis est d'autant plus spéciale qu'on a un enregistrement qu'on va vous faire écouter à l'instant de M. Bouchard qui nous définit la sagesse de son point de vue.
Un enregistrement exclusif. On tient à dire qu'il a envoyé pour la planète des sages. Ça nous a vraiment touché.
Les bretelles nous ont pété sur le corps pas mal vite. Fait qu'on vous fait écouter ça tout de suite.
Ma définition de la sagesse. C'est un peu embêtant, parce que la sagesse commence justement par l'humilité devant les questions complexes. L'humilité, pour moi, ça définit bien la sagesse. La patience, la tranquillité, le respect de soi, le respect des autres. Ça fait à peu près, pour moi, le tour du sujet. Mais chaque petit mot que je viens de dire demanderait un plongeon dans l'inconnu. La sagesse, c'est un peu tout ça. Et on pense, on dit que ça vient avec le temps. Là, on peut se reposer tranquille. Il y a des vieux qui ne sont pas sages. Il y a des jeunes qui sont sages très tôt. C'est ce que je viens de dire, être un peu tranquille en face de la complexité des choses.
Alors, Patrick, t'en parlais dans ton introduction de cette fameuse voix. Donc, on a eu encore l'occasion de bien l'entendre.
Je voudrais en mentionner tout d'abord que c'est intéressant que dans la définition de la sagesse de Serge Bouchard, on parle de la notion d'humilité. Et qu'en tout début, notre extrait disait qu'il ne se sentait pas un sage. Donc, on l'a un petit peu eu, là. C'est un sage, mais il veut pas le dire parce qu'il est trop humble. Joke's on you!
Mais oui, c'est une magnifique définition. Moi, j'en ai trouvé d'autres là, à travers ces ouvrages, mais je pense que avant, là, on en parle, on est enthousiaste, mais on met toujours la table avec une biographie, fait que je pense que c'est encore nécessaire pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont pas comme nous, là, des espèces de geeks de Serge Bouchard.
Des groupies, je dirais.
fait que Serge Bouchard, il est né à Montréal en 1947. Précisément, désolé, il est né à Pointe-aux-Trembles. Ben, du moins, il a grandi à Pointe-aux-Trembles, qui est complètement à l'est de la ville. Puis, tu sais, c'est un quartier auquel il revient souvent dans ses écrits, parce que je pense qu'il a déjà dit quelque chose comme ça. C'est un quartier fourre-tout, là. C'est très industriel. C'est pas réfléchi beaucoup architecturement parlant. Puis, tu sais, pour les gens de Montréal, c'est le bout du monde, là, Pointe-aux-Trembles. Puis, lui, il aime cette origine-là de Pointe-aux-Trembles. Il y a des gens qui disent Pointe-aux.
Ah, mais bon. Ouais. Okay. on les salue.
Quand j'habitais à Montréal.
Tous ceux qui disent Pointe-aux.
Mais c'est ça. Donc, il va étudier après ça là, son lycée au Mont-Saint-Louis, dans le fond, au collège Mont-Saint-Louis. C'est là-bas qu'il va faire son l'équivalent du secondaire aujourd'hui. Il va jouer au football aussi là-bas, une autre, c'est d'autres informations là, sur lesquelles je reviens parce que lui-même en parle beaucoup à la radio dans ses écrits. Mais bon, c'est surtout sa carrière universitaire, ses études universitaires qui vont nous intéresser parce que c'est ça qui l'a mené vers ce qu'on connaît de lui aujourd'hui, soit ses études là, en anthropologie à l'Université Laval. Donc, il est passé par notre belle université.
Magnifique université.
Ah oui, on est chauvin aujourd'hui. Et il va étudier, l'anthropologie. C'est en 1973 qu'il va compléter un mémoire de maîtrise sur les chasseurs des peuples Innus, donc au Labrador. Donc, il va aller sur le terrain, là, rencontrer des gens et travailler directement avec les Innus. Il va faire un mémoire qui va avoir un certain retentissement là, dans le monde académique. Et beaucoup de gens pensaient qu'à ce moment-là, il allait continuer et faire une thèse sur les peuples autochtones. Et puis non, il a étudié à l'Université McGill sa thèse de doctorat sur les camionneurs de long cours. C'est un sujet très, très original et il a étudié ça par un amour qu'il vouait à ces gens, à ce métier. Et il va compléter sa thèse en 1980. Une thèse que il veut là, depuis éventuellement faire un ouvrage le fini, le publier. Et moi je l'attends avec impatience cet ouvrage là.
C'est quand même 40 ans de cela avant que ça soit un ouvrage publié. 40 ans.
C'est un réel passionné des camions. Puis moi pour la préparation à l'émission, je me suis glissé un petit peu dans un ouvrage qu'il avait fait en collaboration avec Bernard Arcan pour une exposition sur les cowboys au Musée de la Civilisation. Cowboy dans l'âme. Et il y avait une métaphore que j'adore qui disait que les camions étaient un peu comme les chevals pour les cowboys. Et j'aimais tellement cette métaphore. Je trouvais ça très, très pertinent, surtout la manière qui nous l'amenait. Mais effectivement, les camionneurs sont des cowboys. Ils ont pas d'attache et ils parcourent le monde inconnu, tu sais.
Oui, puis après ça, tous les parallèles qu'il va faire entre justement là, ces deux champs d'études, si on veut, soit les camionneurs de long cours et les peuples, majoritairement, les peuples autochtones et majoritairement les Innus, il va travailler surtout avec les Innus. Fait que c'est super intéressant parce qu'il y a aussi un lien, il a travaillé sur sa thèse de doctorat, c'était sur les camionneurs au nord du Québec, donc qui faisaient des routes nordiques. D'ailleurs, après ses études, il va se concentrer surtout à continuer à faire de l'anthropologie de terrain et surtout sur la nordicité. La semaine passée, j'étais pas avec vous pour en parler, mais vous avez parlé de Louis-Edmond Hamelin et de ce terme-là, donc le mot viendrait de Louis-Edmond Hamelin, de la nordicité. Puis un beau lien à faire, là. Je pense que ce que vous avez dit par rapport à l'amour du Nord de Louis-Edmond, ça correspond aussi, ça correspond quand même à Serge Bouchard. Il aime le territoire beaucoup.
D'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir en vrai. Émile, étais-tu là ou sinon c'était notre collaboratrice Raphaël qui était là avec moi, mais on a eu la chance de le voir en vrai ici à l'Université Laval lors de l'ouverture de, je me souviens plus exactement c'était quoi, car j'étais là uniquement pour Serge Bouchard, quand je disais que c'était une groupie, mais c'était l'introduction d'un séminaire, me semble, sur la nordicité et le développement durable, et il avait pu faire une petite introduction sur la nordicité, et c'était magnifique. Il était aussi bon communicateur à la radio qu'en vrai, je vous le dis.
C'est intéressant parce que Serge Bouchard fait énormément de conférences, mais dans son parcours, quelque chose qu'il faut vraiment noter, c'est qu'il ne s'est pas dirigé vers l'enseignement. Il a enseigné un peu là, par rapport à ses projets qu'il a fait post-études, mais il a pas concentré une carrière à l'enseignement. Puis ça, c'était vraiment important pour lui parce qu'il voulait rester sur le terrain. Et c'est ça qui l'a conduit, le métier après métier, à en venir à une carrière d'écrivain. Donc, il va publier là, d'abord en 91 Le Moineau domestique, qui est un ouvrage avec des petits récits, là, comme par la suite, on va le connaître avec ça, des récits souvent qui sont de 2-3 pages, anecdotiques assez souvent, là, qui racontent des choses plus personnelles sur sa vision du monde, qui élabore sa vision du monde à travers ces petites anecdotes-là. Et il va en publier là, plusieurs livres du genre. Il va aussi publier des choses comme « Elles ont fait l'Amérique, elles ont couru l'Amérique », inspiré de son émission de radio, écrit avec Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est des ces ouvrages-là, c'est sur des figures importantes là, qui, malheureusement, on ne connaît pas assez. Donc, des figures de notre passé, de notre histoire. Mais sinon, c'est ça, beaucoup de livres là, dans le style de son premier, Le Moineau domestique, L'homme descend de l'ours, par exemple, Les yeux tristes de mon camion, plus récemment. Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux, la lumescarée de la Chrysler noire. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets d'écriture. Un de ses livres les plus connus qui a eu le plus de retentissement, c'est Le Peuple rieur, hommage à mes amis nous, qui sont une espèce de livre hommage à tout le travail et tout le temps qu'il a passé avec ce peuple-là.
C'est un peu comme un testament, là, puisque c'est comme c'est un peu un compte rendu d'un énorme pan de sa vie là, qu'il fait aujourd'hui, parce que il en parlait dans certaines occasions, mais elle que je me souviens, c'est lors de podcasts avec Wagner, mais tu sais, il a souvent été le porte-parole un peu pour des peuples des autochtones avant que eux aient la possibilité en fait d'être mis de l'avant, avant qu'ils aient la possibilité de parler, c'était lui qui était un peu porte-parole, et aujourd'hui, maintenant, il y a des communicateurs pour ça, et lui, il se retire un petit peu, et c'était comme les peuples rias, c'est un peu son testament, c'est le terme qu'il utilisait, il me semble.
Mm-hmm. Ouais, puis c'est ça, fait que c'est son ouvrage, là, son travail que, ben, littéraire finalement là, est massif, et ça c'est un pan important de sa carrière des dernières années qui fait qu'il est devenu une personnalité très connue et reconnue. Et il y a un autre côté à ça, c'est ses apparitions, ses prises de parole à la radio. Donc ça l'a principalement commencé, c'est surtout à la radio de Radio-Canada qu'on va l'entendre, et c'est avec Bernard Arcan, son ami, celui qui a été aussi le directeur de Thèse de Serge Bouchard. Donc Bernard Arcan, qui est un autre anthropologue avec qui ils ont commencé une émission qui s'appelle Le Lieu commun, qui va aussi donner suite là à des livres. Et c'est les deux, donc les deux personnalités se relancent la balle là, sur des sujets comme le mensonge, par exemple. Là, ils font une heure sur le mensonge, et puis c'est des textes qu'ils écrivent. Fait que c'est pour ça que ça se prêtait bien après à être republié en livre. Cette émission-là, ça commença à partir de 92, donc 1992, et ça s'est poursuivi là, jusqu'à 1997. Et à partir de là, il y a vraiment plusieurs émissions de radio, Les Chemins de travers, Une épinette noire nommée Diesel, l'émission là, des Remarquables oubliés, donc j'ai parlé du livre qui en a découlé, mais au départ, c'est une émission de radio, c'est une heure, c'est avec de la musique vraiment épique, et c'est Serge Bouchard seul qui nous raconte une histoire, c'est magnifique, Les Remarquables oubliés. Bon récit, et plus récemment, et je pense on s'entend que c'est comme ça que nous on l'a connu, je crois, pour les trois, c'est avec l'émission C'est fou. Exactement. Avec Jean-Philippe Lowe sur les ondes de Radio-Canada. Donc une émission qui se poursuit là, dans laquelle ils réfléchissent sur un sujet, ils vont vraiment s'attaquer à différents angles pour parler de ce sujet-là, que ce soit par la littérature, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, etc. Donc c'est passionnant et ça fait du bien comme émission, pour vrai. Moi, mon petit C'est fou là, dans la semaine, c'est tellement un beau plaisir. Oui, c'est enrobant, je dirais.
Moi, je le partage. Puis pendant un bon bout de ma vie, parce que je suis beauceron d'origine, tout comme vous, les gars, mais pendant un bon bout de ma vie, la fin de semaine, j'étais en Beauce et la semaine à Québec. Et le dimanche soir, c'était le moment où que je faisais le chemin pour retourner à Québec, et je le faisais en compagnie de Cyril Bouchard et Jean-Philippe Plot. C'est tout le long de l'heure sur l'autoroute Robert-Clich. C'était un vrai plaisir.
Ouais, on a ça en commun, je pense, les trois. Hein, d'avoir été des gens entre, parce que les trois, je sais pas si les auditeurs on l'a déjà mentionné, mais les trois on vient de la même place, c'est-à-dire la Beauce au sud d'ici, puis on a comme ça en commun cette autoroute 73 nord qui monte vers Québec qu'on a emprunté si souvent dans nos vies.
Puis là, c'est beau que tu dises ça, parce que ça fait très Serge Bouchard, ouais, ça, de dire sais, qu'on a une autoroute
en commun
qu'on aime cette autoroute-là. Puis là, justement, là, c'est un passage très rapide dans sa biographie. Il y aurait des choses à dire, mais on a des segments de discussion qu'on a préparés, comme à chaque émission, puis ouais. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur des éléments biographiques. Mais moi, par ce portrait-là que je viens de dresser, je voulais commencer à vous parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à Serge. J'ai appelé ça « Sortir de l'académie », et c'est son passage là, vers l'écriture littéraire et vers la radio. Mmh. Parce que, bon, comme je vous ai dit, sa formation à la base est en anthropologique, puis il a fait un travail anthropologique duquel on va pouvoir parler, mais reste qu'on le connaît par ses écrits, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça fou qu'il soit passé par une expérience concrète, par un travail de recherche aussi dans la pensée et tout, qui en a fait, finalement, je vais écrire des textes que, tu sais, moi, j'ai un de ces textes qui m'a marqué, c'est juste à quel point, à Noël, il a besoin de manger un ragoût de pâte de lapin, tu sais. Là, t'es comme, pourquoi cette personne-là choisit de nous livrer sa pensée à travers une anecdote qui est, faut que je mange du ragoût de pâte de lapin, tu sais. Puis je suis comme, mais en même temps, je trouve que ça dit tellement plus que s'il avait fait une espèce de texte qui serait resté dans les bases de données universitaires ouais, spécifiques. Puis ce travail-là est pertinent. Là, je ne le rejette vraiment pas, les gens qui concentrent leur vie à un travail comme ça. Mais je trouve, non, en même temps, il a besoin de manger un ragoût de pâte de lapin. Puis ça nous dit des choses. Puis ça nous dit des choses en commun avec tous les autres textes. Et on sait que tout ça est porté par un travail là, qui est fait acharné. C'est un grand, grand travail. Il a passé sa vie sur le terrain à réfléchir, à écrire, à travailler. Fait que c'est ça. Fait que ce passage-là, je le trouve personnellement intéressant parce qu'après, c'est sûr, personnellement, j'ai grandi par la littérature. Mes études sont là-dedans. Fait que c'est sûr, j'ai un parti pris pour la littérature, mais bon, fait que je voulais emmener ce thème-là avec vous par rapport à Serge Bouchard. Et ce dont je voulais parler, c'est du travail cyclique. Oh. du travail cyclique du regard.
Oui,
attention, j'ai même pas fini. Travail cyclique du regard entre l'art et l'expérience.
On vient-tu de la Beauce? Me semble, je suis plus sûr.
Non, mais ce que je veux dire dans la vie, c'est que, tu sais, il y a une notion, là, je vais mettre un autre beau mot, mais il y a une notion qui est le méliorisme, que j'aime beaucoup, qui est l'idée qu'on tend toujours vers le mieux dans la vie. Et pour tendre vers le mieux, ben, ça se fait beaucoup à travers notre regard, à travers comment on envisage les choses, et comment qu'on envisage les choses va nous influencer sur comment qu'on les vit. Et l'art entre pour moi dans ce processus-là, mais l'exemple que je donne toujours, c'est ma relation au livre Sur la route. C'est de Jack Kerouac. Moi, je me souviens, j'avais 18 ans, j'ai lu Sur la route, ça m'a vraiment marqué, ça m'a fait voir la route autrement et ça m'a poussé à moi-même entreprendre un voyage. J'étais allé dans l'Ouest canadien, j'ai roulé beaucoup et à partir de là, une fois que j'ai fait ce voyage-là, je regardais, j'ai repris récemment le livre Sur la route, je le lisais et j'étais comme c'est pas le même livre que j'ai entre les mains maintenant que j'ai pris la route. Fait que tu sais, puis ce lien-là, il s'exécute par rapport à tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on fait, il y a toujours une roue qui tourne et si on veut, l'art, c'est de l'eau qu'on ajoute à ce moulin-là. Là, ma roue, c'est un moulin. Ma métaphore est boiteuse un peu, mais vous comprenez l'idée. Puis je me demandais si c'est quelque chose que vous ressentez aussi quand vous lisez ou que vous écoutez Serge Bouchard qui est en train de un peu mettre de l'eau dans votre moulin, de votre vision du monde.
Mais oui, effectivement. Puis moi, quand je lis Serge Bouchard, justement, ben, tu en as parlé tout à l'heure, mais sa façon d'amener des portraits un peu de la vie courante, mais d'animer ça d'un regard anthropologique, un philosophique, et qui écrit souvent des comment dire, on dirait qu'il écrit la relation entre les éléments, il écrit de l'intangible, l'intelligible. Tout d'un coup, là, la manière qu'il l'amène avec une certaine poésie, c'est comme si on voyait quelque chose que normalement ne se voit pas. Et quand que je lis du Serge Bouchard, moi, j'ai l'impression que tout d'un coup, c'est comme ah, il a mis le doigt sur un nouvel élément tout d'un coup qui devient visible, presque visible. Mm-hmm. Et c'est intéressant parce qu'après ça donne un apprentissage qu'on peut ensuite regarder la vie de cette façon-là, un petit peu d'une façon anthropologique là.
J'ai vraiment l'impression que c'est un trait qui définit très bien les auteurs et les producteurs de contenu qui sont forts sur la métaphore puis l'image, comme par exemple Serge Bouchard. Tu sais, il y a une espèce de... Il y a des choses qui se transmettent juste pas par autre chose que la poésie. Puis là, je fais un lien avec ce que Patrick va parler, mais c'est ça. C'est justement là-dedans qu'on s'en va, là.
Oui, ben c'est... Puis Serge Bouchard lui-même va le dire, il y a une émission de C'est fou, il parlait du miroir, c'est la deuxième partie sur le miroir, et il a parlé d'une notion que j'aimais, c'est la poésie générale du monde. Et après ça, il a dit aussi la communication universelle, tu sais. Je l'ai entendu souvent se référer à Descartes pour ça, puis j'ai jamais retrouvé la citation de Descartes en tant que telle, mais comment que Serge Bouchard paraphrase Descartes, c'est « Nous devons admettre que les élans poétiques sont des raccourcis que la science et la rationalité ne peuvent pas emprunter, mais qui arrivent à des points que la science n'arrivera jamais. » Donc, c'est jamais de discréditer une façon de faire par rapport à l'autre. La science a sa place dans la vie, mais la science ne te dira pas tout. Mm-hmm. Il y a un moment où tu vas devoir te poser des questions existentielles. Ils ne seront pas répondus par la science. Même des fois, la science va plus te rentrer dedans par rapport à ces questions-là. Ouais. Si tu considères que tout est biologique, tu vas avoir de la difficulté à donner un sens à ta vie. Puis tu sais, Serge Bouchard, là, il nous a donné cette définition-là de la sagesse qu'on a mis en début de l'émission, mais il y a une autre citation dans laquelle il dit que sa définition de la sagesse, c'est de réussir à donner du sens à les moments que tu vis entre la naissance et la mort. Là, ouais.
Ces notions de sens-là, au point de vue purement scientifique, là, ça justifie plus ou moins. C'est quelque chose de très humain qu'on a besoin. Puis on a déjà parlé dans le cadre de nos anciennes émissions, mettons, quand on a parlé de Yuval Noah Harari, mais la construction d'une histoire, ce que Serge Bouchard lui appellerait un récit, mais c'est un peu une construction de sens organisée qu'on a besoin, nous, en tant qu'être humain, pour fonctionner.
Ben oui, sinon, c'est ça. On parlait de Descartes, là, c'est un peu les... On tombe dans la machine, sinon, là, tu sais, l'exécution sans aucun sens. Ben, tu sais, c'est ironique qu'on parle de Descartes en mettant la science de côté. Tu sais, lui qui a parlé de c'était comme un peu antipathique, là, l'idée de l'animal-machine, puis tout, là, en tout cas.
Mais oui, puis dans ce que, excusez, je rebondis sur ce que François disait, mais, tu sais, de donner du sens aussi, ce que je trouve la littérature va avoir tendance peut-être à faire, c'est d'aller donner du sens à travers, bon, des récits très imaginaires, élaborés, puis de s'éloigner un peu de la réalité du quotidien. Puis c'est ce que j'aime beaucoup de Serge Bouchard, c'est qu'il esthétise le quotidien, l'ordinaire. Mmh. Tu sais, je pense que le meilleur exemple, moi, c'est l'autoroute 20. J'ai fait l'autoroute 20 dans ma vie, là, beaucoup. Là, j'ai habité justement en Beauce, puis un bout j'habitais à Montréal, je revenais quasiment toutes les fins de semaine, fait que je faisais un segment de l'autoroute 20, et c'est une autoroute laide. En fait, la plupart des gens vont la trouver laide, plate, mais Serge Bouchard nous apprend à voir la beauté dans cette platitude-là, puis je sais que les épisodes de C'est fou sur la route, à un moment donné, on lui a demandé c'est quoi la plus belle route au monde, et il a dit la 20, tu sais. Et là, maintenant, ça fait que moi, je vais sur la 20, puis je fais, c'est vrai, c'est beau, tu sais. Puis juste ça, juste deux heures-là dans ma vie que j'aurais pu faire, hey, c'est donc ben laid, puis quasiment souffrir de la laideur, ben c'est rendu que je fais, waouh, il y a quelque chose et je veux le dénicher, c'est quoi qu'il y a.
Il y a un sens que je suis capable de construire, là, c'est ça.
Exactement.
Si je me force, je suis capable de mettre un peu de sens dans tout ça.
Ouais, et puis, bon, après, à travers tout ce travail-là, comme je vous ai dit, il y a eu un passage, bon, vers la littérature pour changer notre regard. Puis un autre truc que je trouve important, et on l'entendait dans l'extrait qu'on a mis en introduction, c'est que ce travail-là, c'est un travail qui se fait sur longtemps. Ça prend du temps. Moi, j'aime appeler Serge Bouchard parce qu'il a étudié sur les camionneurs de long cours. Il aime cette idée-là de distance. Je l'appelle l'intellectuel de long cours. Je trouve que c'est quelqu'un qui a, tu vois, que sa vie a pris... les choses qu'il a entamées dans sa vie, il a pris le temps nécessaire parce que la lenteur est nécessaire. Puis on le voit ça par décider de pas devenir enseignant, par exemple. Ben, ça l'a fait... OK, tu sais, je vais prendre prendre une autre route. Cette route-là risque d'être peut-être plus ardue. Il a pris un chemin de travers, pour reprendre le titre de son émission. Et cette route-là va être plus ardue, mais je sais qu'au final, je vais en ressortir quelque chose d'intéressant, tu sais. Et puis ça transparaît beaucoup dans une notion de Serge qui est revenue. Moi, je l'ai entendu souvent en parler, puis c'est le fait qu'on est dans un monde qui vit bien avec le jet lag. Non, Serge, on le dit pas comme ça, là. C'est moi qui a pris l'impression de jet lag, mais que c'est le fait qu'on triche un peu avec le temps. Ça se voit par les voyages, là.
On triche beaucoup avec le temps, je pense. Oui, beaucoup avec
le temps. C'est ça, puis tu sais, les choses, mettons, se font, tu sais, entreprendre un voyage là, pendant une longue partie de l'humanité là, ça se faisait à pied, ça se faisait peut-être en canot, même que tu sais ça s'est fait encore, c'est très récent dans l'histoire, mais en auto. Puis jamais dans tous ces moyens de transport là tu vas être jet lag, mais le fait que je peux être demain en Australie, il y a quelque chose là. Ouais. Et on vit notre vie comme ça, on vit notre vie dans une espèce de presse de se rendre rapidement là-bas et tout. Et puis Serge lui a fait non, tu sais, puis c'est ça qu'il disait dans l'introduction. Moi, j'ai un pas qui est différent, et ce pas-là, il le voit, là, il le dit, ça fait du bien à notre monde. Puis on a besoin de gens qui ont ce pas-là, parce que c'est ça, tu sais, puis on le voit dans le travail intellectuel qu'il a entrepris aussi. Tu sais, on parlait de le peuple rieur, c'est son espèce de legs par rapport à tout l'ouvrage qu'il a fait de changer le regard. Mais tu sais, un changement, notre façon de considérer aujourd'hui et pendant trop longtemps dans l'histoire les peuples autochtones, c'est malheureux, c'est d'une tristesse absolue, c'est horrible. On peut tous les prendre, les qualificatifs. Mais ce changement-là qui s'est construit sur plusieurs années de racisme, tu peux pas du jour au lendemain faire « ça va changer », tu sais. Et il faut des gens comme Serge Bouchard qui font « OK, ben je vais y consacrer une carrière ». Parce que la plupart des gens vont aller deux jours manifester dans la rue, ça a plus de bon sens, et passer à d'autres choses, tu sais. Et c'est pas ça, exécuter des changements, tu sais. C'est d'avoir la conscience de « je vais peut-être y consacrer ma vie ». Et ça se peut qu'à la fin, j'ai vu qu'un minuscule changement, mais au moins, je vais l'avoir fait, ce changement-là, et je vais y avoir participé activement et sur un long terme, comme entreprendre la route en camion de Québec à Sept-Îles. Ça va me prendre du temps.
Puis je pense que, Patrick, tu diminues pas non plus l'importance d'un militantisme. C'est vraiment une question de comprendre.
Je diminue.
De comprendre la complexité des choses, finalement, puis de prendre le temps de régler les choses.
Exactement. Puis c'est fait que c'est ça. Fait que moi, je le vois, comme je dis, je le vois à travers ce choix-là, encore une fois, là, de utiliser les anecdotes, la littérature, parce que il y a ça aussi, tu sais, le cycle que je vous parlais, ben c'est un cycle qui est permanent et dans lequel on peut toujours ajouter de l'eau au moulin dont je parle. Fait que c'est ça pour moi. Je pense que la décision de Serge Bouchard de faire comme OK, je vais écrire, je vais prendre la parole à la radio, ben c'est je vais tranquillement semer ici et là des graines de changement.
Puis d'autant plus, justement, on a l'impression qu'il endosse très bien le fait que c'est un processus qui est lent. Fait que d'une certaine façon, il va pas trop se stresser. Parce qu'imagines-tu, s'il devenait stressé, vite, il faut que tous les Autochtones soient sauvés avant que je meure, là, d'une certaine façon. Là. Là, c'est une responsabilité, c'est un stress qui serait
épouvantable,
qui ne serait pas possible. Fait que d'une certaine façon, quand on se dit on va se consacrer notre vie à une carrière ou à une vocation pour changer les choses, je pense que c'est une bonne façon de se dire, hey, je suis là pour un marathon, fait que on va pas se brûler au début. Là.
Ouais. C'est génial. Fait que c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur ces ouvrages qu'on connaît plus. Mais là, on va... comme je disais, là, je trouvais ça intéressant, moi, de passer de ce qu'on connaît plus de lui vers peut-être ses études. Je sais que le prochain segment, on va pouvoir parler de ses études d'anthropologue. Ce sont l'aspect anthropologique de son travail.
C'est ça, davantage.
Puis avant, on passait en musique.
Oui, absolument. Ben, c'est ça. On va écouter quelques publicités suivies d'une chanson que je pense que tu pourrais nous présenter à l'instant.
Oui, parce qu'on essaye souvent de faire des liens là, dans notre musique. On n'y reviendra pas longuement par la suite, mais il y a une chanson de Fred Pellerin qui s'appelle « La chanson du camionneur », qui est une chanson très, très belle sur justement là, un camionneur qui pense à sa blonde puis qui pense à l'amour qui vaut pour sa blonde. Et je trouvais que ça, d'une part, le lien avec Serge Bouchard du fait qu'il est camionneur, donc désolé, il n'est pas camionneur, il a étudié les camionneurs, ouais. Il aime beaucoup les camionneurs, mais aussi je trouve que c'est une chanson qui respire là, l'ordinaire, la beauté de l'ordinaire dont on parlait, avec la belle voix et les beaux mots de Fred.
Parfait, parfait. Merci pour cette présentation, Patrick. Donc, on se retrouve après quelques publicités et une chanson de Fred Pellerin.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Il ne paye pas le prix!
Tu veux ta dose de sport quotidienne?
La dureté du mental! Incroyable!
Écoute Chiz 94.3 du mardi au jeudi de 15h à 16h.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite Antisportive, c'est la réunion des meilleurs passionnés de sport à Québec qui vous parle de l'actualité sportive.
Mets ton toughness!
Hockey, football, baseball, soccer, curling, béton, chasse et pêche, et bien plus! Conduite Antisportive, c'est du mardi au jeudi, dès 15h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
OK, attention. 1, 2, 3.
Chiz! Je suis dans mon camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Des fois, je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard, quand on sera des bons vieux. Moi, je vis juste pour toi, j'ai hâte à la fin de semaine. Je t'aime. De cogner du marteau quand tu fais du gâteau. T'es si belle au fourneau, mais je veux mieux pour ma reine. Tu me dis que tu veux changer la cuisine, enlever le comptoir, ramener la mienne, pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je dors dans le camion 4 nuits par semaine. Je t'aime. 3h du matin, réveillé par la faim. Mon petit lit dans le cabine, il est même trop grand pour rien. J'ai des idées pour la salle à manger. Je t'aime. J'ai hâte d'en jaser autour d'un bon café. J'ai acheté des néons, ce que tu m'avais demandé. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine, enlever le comptoir, ramener la mienne, pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je suis dans mon camion quand la neige a de la peine. Je t'aime quand le vent trop jaloux, la garoche entre mes roues. J'ai autour du cibi un vieux chapelet jauni. Tu me l'as donné en pleurant comme une folle. Je t'aime parce que t'es ben croyante, pis t'as peur quand il vente. Assoir ton camionneur rentrera plus de bonheur. Suffit que tu me dises que c'est bien plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras amènent la mienne, te lève des heures loin de la Tuque et Trois-Rivières, toi es la plus belle de l'univers. Suffit que tu me dises que c'est bien plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras amènent la mienne, te lève des airs loin de la Tuque et Trois-Rivières, toi la reine de mes je t'aime, toi la reine de mes je t'aime.
C'est sa vertu première. C'est-à-dire que c'est une très, très bonne formation fondamentale. Moi, quand j'étais en anthropologie, j'ai eu la passion d'anthropologie. Je ne suis pas fait ça par défaut. J'ai eu la passion, très jeune, de dire je vais devenir anthropologue parce que être un anthropologue, c'est étudier d'autres mondes, c'est étudier le monde, c'est étudier l'être humain, évidemment, l'être humain dans le passé, l'être humain dans le présent, l'être humain ici, l'être humain ailleurs, l'être humain dans tous ses costumes, dans tous ses visages, dans toutes ses religions, hein, dans tous ses contextes. Alors, bon, j'ai eu la passion de ça.
Alors, on entendait à l'instant, au retour de la magnifique chanson la chanson du camionneur de Fred Pellerin, on entendait un extrait de Serge Bouchard qui définissait l'anthropologie.
Oui, puis on l'a commencé un peu tard. On a manqué le bout où il dit l'anthropologie, ça sert à rien. Je tiens à le dire, ça va être important pour la suite.
C'est même, je pense que même c'est
sa vertu première. C'est ce qu'il dit, sa vertu première.
Finalement, c'est que ça sert à rien. Bon, c'est dommage qu'on ait perdu ce petit bout-là à cause du fameux fade in, comme on dit dans le milieu de la radio, mais en tout cas, c'est pas plus grave.
Seulement dans le milieu de la radio.
On le dit nulle part ailleurs. Alors, justement, on va suivre cet extrait d'un autre extrait préenregistré que j'ai préenregistré avec notre collaboratrice chouchou, Raphaël Laverdière. Donc, on va écouter ça à l'instant.
Alors, bonjour et re-bienvenue à la planète des sages. Par la magie du faux direct, je suis en compagnie de notre collaboratrice régulière, Raphaël Laverdière. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, Émile.
Donc, c'est ça, Raphaël Laverdière, qui, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné à l'émission, a un baccalauréat en anthropologie, ainsi qu'une maîtrise dans ce domaine, ce qui est extrêmement pertinent.
Non, une maîtrise en cours.
Une maîtrise en cours, ben oui. Elle est en train d'étudier à la maîtrise, puis c'est extrêmement pertinent dans le contexte où on parle de Serge Bouchard, qui est un anthropologue.
Je sais pas si c'est extrêmement pertinent, mais...
Extrêmement.
J'aime beaucoup Serge Bouchard, j'aime beaucoup sa pensée, et je pense que c'est intéressant un petit peu de parler de c'est quoi son... ce qui est pour moi le bagage de l'anthropologie dans sa définition de la sagesse. Dans cette définition qui nous a concoctée de la sagesse, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la part qui est très importante de l'humilité pour lui. Parce que dans mon parcours au bac et encore plus dans mon parcours à la maîtrise en anthropologie, je réalise de plus en plus que l'anthropologie, c'est une discipline qui apprend à être humble. Être humble d'abord devant ce qui est inconnu, devant l'autre que soi, devant l'altérité, devant des choses qui nous échappent a priori. Et ça, c'est quelque chose que Serge reflète beaucoup, je trouve, dans sa manière de penser. C'est accepter de redevenir un enfant et de se laisser enseigner les choses, que ce soit dans une société dans laquelle on n'est pas issu ou même dans sa propre société, chez soi. C'est de pouvoir être assez humble devant l'immensité des questions auxquelles on n'a pas répondu et d'accepter sa place dans cette immensité-là. C'est être humble devant le fait que l'anthropologie, comme discipline, ça ne sert pas à répondre à des questions. Ça fait juste créer toujours des nouveaux questionnements. Et Serge l'a lui-même dit à maintes reprises, l'anthropologie, ça ne sert à rien. L'anthropologie ne va pas régler tes problèmes, ne va pas répondre à tes questions, ça ne te donnera pas ce que tu veux entendre. L'anthropologie, pour moi, c'est tendre les bras vers quelque chose qui est inatteignable, au fond. Puis être anthropologue, c'est savoir être humble dans cette posture de quête constante. C'est de vivre en paix avec l'incertitude et le doute. Voilà.
Aïe, aïe. Quel beau témoignage de quelqu'un qui baigne dans le milieu de l'anthropologie. À travers tout ce que tu as dit, là, je trouve ça particulièrement pertinent parce que ça traduit comme cette idée... d'un espèce de besoin de retourner à une certaine naïveté qu'on perd aujourd'hui.
Ouais, exactement.
Je me sens comme... aujourd'hui, on perd tout ça. Mais tu sais, c'est un peu ça, là, retourner vers une posture plus... Il ne faut pas avoir peur d'être naïf, en même temps d'être humble.
Exactement, parce que l'anthropologie, oui, tu peux apprendre à faire de l'anthropologie, puis il va y avoir une méthode anthropologique, ethnographique, tout ça, mais en même temps, il faut que tu sois... naïf un peu devant ce que tu désires observer. Oui, tu peux avoir des choses a priori que tu sais, mais il faut que tu te laisses être surpris, il faut que tu te laisses découvrir des choses qui sont incompréhensibles, j'ai envie de dire, et d'être correct avec ça, d'être confortable avec le fait que t'auras pas la réponse. Tu vas juste soulever plus de questionnements puis ouvrir plus de boîtes au fil de ton parcours.
Puis c'est absolument... En tout cas, moi je sais que ça me rejoint absolument comme message. Puis justement, ça lance un message qui fait un très bon lien avec l'émission qui va suivre cet enregistrement. Je me lance moi-même la balle, Émile du futur. Ça donne un regard, finalement, un regard différent, une observation plus d'ensemble, tu sais.
Mm-hmm.
En tout cas, fait que, ouais, je nous lance la balle. Puis merci, Raphaël, pour cette contribution.
Ça m'a fait plaisir. Bonjour à Serge, il nous écoute.
Alors, on se retrouve à l'émission.
Hey!
Et toute une transition.
Hey, je me suis lancé la balle, là. Ouf! En tout cas, on remercie encore une fois Raphaël d'avoir contribué.
Toujours pertinent, Raphaël.
Ben oui, absolument. Ouais. Puis ça me fait d'autant plus paraître moins pertinent quand je lui parle parce qu'il est tellement ça accouche qu'après ouais, ça. Puis,
ben c'est surtout ça fait du bien là, qu'elle étudie toujours ben oui. Anthropologie, d'avoir ce regard là. Je pense que ça va être super pertinent pour alimenter nos discussions. Mais tu t'es lancé la balle,
ben,
donc.
Oui, je me suis lancé la balle.
Ben joue avec ta balle.
On parlait de naïveté, d'empathie, de regard. Ben c'est sur ces thèmes-là que je veux jouer parce que j'ai l'impression que c'est essentiel pour comprendre Serge Bouchard. Donc, justement, cette empathie que je viens de mentionner, qui est liée à la naïveté dont moi et Raphaël ont parlé plus tôt dans l'extrait, que ça soit dans ses écrits ou dans sa propre bouche, Monsieur Bouchard, il cache pas son côté empathique. J'écoutais récemment justement une émission de C'est fou sur l'empathie, puis il parlait de ses expériences étant plus jeune, tu sais, à quatre pattes par terre à regarder les fourmis, puis à se demander, tu sais, à se mettre à la place des fourmis, tu sais, s'il y a de quoi de plus empathique que ça, je pense pas, en tout cas. C'est sûr que pour produire les réflexions qu'on lui connaît, il en faut appelter de l'empathie, ça en prend en masse, puis cette empathie-là, j'ai l'impression, est à la base de l'ouverture aux autres, qui est essentielle dans le milieu de l'anthropologie. Donc, comme je le mentionnais, je trouve vraiment que c'est quelque chose de pertinent en contrepartie à la raison, la rationalité qu'on met tellement de l'avant aujourd'hui en société. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les gars, là.
Si on met la rationalité trop de l'avant.
Ben ou... justement, est-ce que quand je parle de contrepartie à cette rationalité là, qu'est-ce que ça vous évoque finalement?
Ouais, effectivement, je pense que c'est ce qui fait du bien, puis ça fit un peu encore une fois là avec le pas dont je parlais tantôt. Il y a ça aussi où la fameuse le fameux chemin de travers sur lequel j'ai beaucoup. Je trouve tellement ça beau comme image, mais juste d'aller un peu sur le côté. Tu sais, c'est encore une fois, c'est pas que la rationalité est complètement qu'on déteste la rationalité, je pense.
Non, c'est complémentaire.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Faut juste pas tomber uniquement dans la... Ben, c'est que... Je veux pas proposer rien, mais tomber uniquement dans la rationalité, on perd un grand pan de la vie, je pense. Mm. Puis, justement, quand tu parles de l'empathie, c'est d'aller rechercher des choses que, justement, qui se comprend très peu au niveau de la rationalité. Là. On est plus au niveau de l'affect, des émotions, puis de certains non-dits, de l'intelligible, qui est pourtant très, très... important, qui a un grand impact dans la vie des
concret,
êtres humains, mais qu'en termes rationnels, on enlève toute la magie là, quand on parle de ça, puis on n'arrive pas vraiment à en parler pour vrai. T'sais. Quand on veut essayer de rationaliser la beauté du quotidien, on perd tellement, là, c'est très réductionniste, j'ai l'impression.
Ben, tu sais, tout à l'heure, la poésie générale du monde dont je parlais, je me souviens très bien de l'extrait, c'était quoi, au sujet de quoi, puis c'était des études, Jean-Philippe Plot, assez fou, parlait d'études qui avaient été faites sur les animaux, de leur arracher des poils et de voir leur réaction pour savoir... c'était des études sur des animaux, puis là, est-ce qu'on peut comprendre ce que ressentent les animaux? Puis Serge Bouchard, tu sais, il l'a pas dit littéralement, mais on sentait qu'il parlait de ces bestiaires, là. Il a écrit des livres qui s'appellent Les bestiaires, confession animale, où il se met dans la peau des animaux, puis il fait, et ça, c'est une façon de parler de l'animal où tu acceptes l'anthropomorphisme, tu sais. Tu acceptes que tu pourras pas en parler sans le biais du fait que t'es un humain.
Ben
tu
oui.
fais comme, ben, rendu là, je vais me faire à croire que j'étais un ours. Ben, puis je vais humaniser l'ours, mais en même temps, je vais aimer l'ours en tant qu'ours.
Et cette empathie-là sert énormément à sa poésie, parce que quand il en parle, c'est même pas quand il va l'écrire d'une façon littéraire, mais juste quand il parle dans les entrevues, il y a toujours cette tendance-là à faire, je dirais que c'est même pas une métaphore, c'est une comparaison. Il dit, nous autres, on est de même, les êtres humains, l'ours, lui, est de même. L'orignal, lui, est comme ça. La fourmi est comme ça. Et c'est, j'ai pas l'impression que c'est de l'ordre de la métaphore. C'est carrément de se dire, bon, nous autres, on est des animaux, tout comme eux. Eux autres, ils fonctionnent de cette façon-là. Nous autres, les êtres humains, c'est de même. Mm-hmm. Mais on a l'impression que ça peut tomber dans l'ordre de la métaphore, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus dans un plan d'égalité de, voici ce que l'ours fait. L'ours est dangereux, lui, est comme ça.
La limite est poreuse entre la métaphore puis vraiment l'affirmation dans ce cas-là, j'ai l'impression, là. Surtout que je pense que, comme Pat il disait, c'est comme sous-entendu dans sa pensée en parlant des animaux, par exemple dans les bestiaires, qu'il accepte le fait qu'il ne peut pas sortir de sa subjectivité humaine. Mm-hmm. Il ne peut pas être vraiment un orignal ou être un ours, mais en même temps, il est capable
de... Si quelqu'un pouvait le faire, ce serait lui.
Ouais, probablement.
Probablement un ours.
On va lancer ça. Là,
ouais, même
peut-être, on lance ça comme ça, peut-être que Serge Bouchard est capable de se transformer en animal, on le sait pas. C'est pour ça qu'il comprend aussi bien les animaux.
C'est un ours-garou.
Ah, voilà. Merci Patrick, j'avais oublié le terme pour ça.
Mais... Le terme rationnel et scientifique.
Ben, rationnel et scientifique, je pense que Serge Bouchard a dit des choses très pertinentes par rapport à la rationalité, pour la rationalité, être à ce point-là dans le spectre, c'est-à-dire oublier la complémentarité puis être juste là-dedans. Là. Puis je pense qu'on peut écouter un extrait justement de Serge Bouchard.
Oui.
Ben oui, évidemment.
C'est ça. Okay. Je le commence.
C'est ce qu'il y a de plus beau. J'ai d'autres choses que j'haïs aussi. La rationalité. Le rationalisme. Les êtres rationnels. Les êtres qui ne doutent pas. L'absence de doute. J'haïs ça. Les gens qui sont sûrs. Les banquiers, par exemple. Quand ils te parlent.
Hey, c'est fort, pareil. L'extrait est bien choisi, là. C'est vraiment... J'aime vraiment le fait qu'il commence en disant « j'haïs ça ».
Faut dire que c'était la question qu'il veut poser. L'animatrice, ben il avait dit « c'est quoi les trucs que t'aimes pas ?» Je tiens juste à souligner les autres parce qu'ils sont intéressants, mais la trahison, je crois que c'était la méchanceté gratuite. Ouais. Il y avait la rationalité et l'autre, je l'oublie, là, je l'ai dans mes notes, mais continuez.
Ouais, puis ben, peut-être souligner rapidement que c'est une archive de Radio-Canada là, en 99. Serge Bouchard était allé à la vie d'artiste.
Et c'était la stupidité, l'autre chose.
Ah, voilà. Voilà.
Quel choquait, Monsieur Bouchard.
Quelle arme de recherchiste, ce François Provost, de trouver nos détails qui manquaient justement à l'extrait. Bon, je trouvais ça fort, justement, que, comme je disais, qu'il utilise jaillit. Tu sais, il y a quelque chose de... On parlait du ressenti, puis de, tu sais, éviter comme les longues explications, comme trop scientifiques, mais il y a une espèce de simplicité importante. François, je pense que tu veux dire quelque chose là-dessus, justement.
Bien, c'est intéressant, parce que d'une certaine façon, il dit les gens qui ne doutent pas.
Ouais.
Parce que la rationalité, on met souvent ça sur un pied au niveau scientifique comme si c'était la chose la plus importante. Mais c'est très important. Mais juste, c'est qu'à un moment donné, si on est trop collé au rationnel, c'est comme si on devenait un peu aveugle, mais qu'on allait quand même dire, moi, ce que je dis, c'est la vérité. Et vu que le rationnel, c'est culturellement valorisé en ce moment, c'est comme dire, moi, j'ai le droit d'être aveugle parce que j'utilise la rationalité. Mm-hmm. Donc, c'est quand il dit les gens qui ne doutent pas, c'est justement, c'est comme, j'ai l'impression que c'est des gens qui vont s'enfermer dans, ah, oh, OK, le rationnel, c'est ça la vie, bon. Puis finalement, c'est très, très simpliste. Ouais. Puis après, c'est de dire, ouais, on t'a peur, là. Il y a des trucs que tu ne peux pas, tu sais, le rapport à l'existence, là, la spiritualité, la philosophie, on peut mettre du rationnel là-dedans. Mais si tu fais juste t'enfermer là-dedans, ça veut dire que tu viens de ta contribution au débat est finalement est minime. Là. T'es pas vraiment outillé pour y faire face.
Puis je veux pas dire que c'est plus facile, mais on va le dire comme ça. Là. C'est plus facile quand on parle de philosophe ou d'anthropologue, tu sais, que c'est vraiment déjà à la base des trucs plus dans le... qui accepte plus la subjectivité, puis tu sais, de se mettre à l'écart du rationalisme. Mais encore là, les scientifiques, comme je vais prendre par exemple Einstein, sais, juste un petit name dropping comme ça, là. Ben, je veux dire, on imagine des figures comme ça, puis ils acceptaient le doute, ils acceptaient le fait qu'il y a des choses qu'ils connaissent pas, tu sais, des choses qu'ils ne voient pas, auxquelles ils sont aveugles, comme tu le disais. Puis ça tombe bien parce que justement, le prochain thème que je voulais aborder, c'était le regard. Justement, le regard de Serge Bouchard, un regard qui est en prend large, qui est patient, mais qui est aussi précis. Donc, c'est comme des choses qui sont un petit peu contradictoires, mais quand même, ça se complète très bien. Serge Bouchard, des fois, il me donne l'impression qu'il a une vision qui est largissime. J'ai l'impression qu'il voit, il a des yeux tout le tour de la tête, puis qu'il est capable d'apercevoir les choses dans leur ensemble. Mmh. C'est lié aussi, ben, justement, voir comme ça, ça prend du temps. Donc, c'est éminemment lié à la lenteur dont tu parlais, Patrick. Prendre son temps, être patient. Et il y a une capacité de rappeler le contexte historico-culturel des événements et des comportements humains. Ça, c'est quelque chose que je trouve très précieux dans ces fous. Tu sais, ils vont avoir des affirmations qui vont se lancer, puis Serge, oui, mais tu sais, on s'en souvient dans tel, puis là, on l'a, tu sais, le contexte, là, on l'a, la capsule autour de l'affirmation. Puis, oui.
Ben, j'ajouterais par rapport à ça, ça revient aussi un peu à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, du choix de s'exprimer à travers la littérature, mais que tout ça, et là, je vais utiliser un anglicisme parce que je le trouve pas en français, mais
on est
backé par justement sa formation anthropologique.
Secondé.
Supporté serait le bon terme. Sa formation anthropologique dont on parlait avec Raphaël. Fait que je trouve que c'est une très belle complémentarité. Puis c'est la même chose dans le fait que son expression soit fondamentalement poétique, quasiment, qu'on pourrait dire. Puis qu'il y a du doute, c'est pas à fond dans la rationalité. Mais tout ça, et c'est toujours comme oui, mais reste qu'il est intelligent. Puis il a fait ses armes là, puis tu sais, on sait que ça vient pas de nulle part, n'importe où. C'est pas comme si n'importe qui allait crier des affaires pour faire comme tout se vaut.
C'est ça, c'est pas nécessairement parce qu'il enseigne pas à l'université qu'il aurait pas pu le faire. T'sais, il aurait pas pu devenir un scientifique académique comme on parlait au début. Pas qu'il y a rien de mal à devenir, encore une fois je le rappelle là. Mais en tout cas, pour continuer sur le regard, ben là on parlait du côté large, c'est son regard d'anthropologue très qui prend en compte le contexte, mais aussi je mentionnais un regard précis. Ben c'est ça, c'est une attention aiguë qui permet de mettre le doigt sur les détails qui rejoignent les lecteurs et les auditeurs. Patrick, tu le rappelais, François également, tu sais, les métaphores, tout ce qui est d'esthétiser le quotidien là, c'est, je trouve que ça témoigne vraiment bien de son regard qui est très très précis. Puis moi personnellement, quand je pense à cet aspect-là de la vision de Serge Bouchard, ben je pense à sa description des gens dans Le Peuple Rieur, dont j'ai une copie dédicacée, brag. ben justement, ça m'avait vraiment marqué dans ce livre-là, la description des gens, puis de, tu sais, t'as l'impression d'y rencontrer à travers l'écrit. Puis ça, je pense que c'est comme une déformation professionnelle d'anthropologue, de sensibilité, d'espèce de compréhension des gens qui côtoie. Moi, je sais pas, est-ce que de lire du Serge Bouchard, ça vous a inspiré à pratiquer un espèce de regard comme ça, là, un regard très profond des gens?
Ben moi, j'ai l'impression que c'est qu'on parlait de l'empathie, je reviens un peu à ça, mais d'avoir l'auteur qui est empathique et qui va autant comme assimiler d'informations, qui va être sensible aussi à tout ce qu'il va vivre comme information, et quand c'est servi au niveau de la description des gens, ben en tant que lecteur, ça sert à notre propre empathie, parce que tu disais, on a quasiment l'impression de les rencontrer, mais on le sait que la lecture a ces vertus-là d'une façon de nous faire mettre dans la peau de quelqu'un d'autre une fraction de seconde, tu sais,
ouais,
pas complètement, mais d'avoir une petite vision de la perspective de cette personne-là, c'est justement, c'est comme si on chaussait les chaussures de quelqu'un. Puis moi, j'aime, en tout cas, je suis peut-être un petit peu trop rationnel, mais j'aime aussi dire que quand on lit quelqu'un et qu'on regarde son organisation de mots dans un livre, tu sais, c'est aussi, c'est les signes qui représentent l'organisation de certaines idées que cette personne-là a dans sa tête. C'est presque des neurones. Comment ils sont agencés, tes neurones, là, dans ta tête? Ben, ils sont agencés que je fais des raisonnements de même. Fait quand t'es lit, là, nous autres, les êtres humains, on est faits comme ça. Nos neurones agissent, ils vont répondre à cette stimulation-là, puis ils vont s'organiser de certaines façons. Fait que la lecture, elle nous fait non seulement, quand on dit qu'elle nous donne de l'empathie, c'est pas juste au niveau romantique, mais c'est au niveau très, très humain. Ça fait partie de notre cerveau. On regarde ça, on s'alimente, on assimile les choses d'une autre personne et ça vient nous imbiber totalement.
Très, très riche, effectivement.
Puis, moi, j'aurais deux choses à dire par rapport à ça. D'une part, j'ai entre les mains en ce moment récit de Mathieu Mescochot, Chasseur et nous, donc un livre de Serge Bouchard. Il n'est pas dédicacé. parce que mon tu exemplaire de... Ben, en fait, j'ai une dédicace dans L'allume cigarette de la Croix-Saint Noir, son dernier, mais je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Donc, si quelqu'un m'écoute et a mon livre, c'est ce genre de dédicace.
On va faire un avis de recherche à la fin de l'émission.
Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est probablement l'ouvrage le plus anthropologique que j'ai lu personnellement de Serge Bouchard, parce que, en fait, c'est Mathieu Mescochot. C'est pas vraiment. C'est plus ou moins écrit par Serge Bouchard. C'est lui qui l'a traduit. Là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Je suis pas sûr à 100% des informations que je donne, mais c'est un enregistrement qu'il avait fait de Mathieu Mescochot qui a traduit vraiment plus long. Plus tard. Et pour vrai, ce livre-là, je me souviens, je l'ai lu il y a peut-être 3 ans et j'en garde encore le souvenir très, très puissant là, d'être dans la forêt avec Mathieu Mescochot. C'était humide comme lecture. C'était vraiment quelque chose. Puis c'est, en fait, là, comme je dis, c'est plus ou moins lui qui l'a écrit au sens où il a juste repris la parole, mais juste cette idée-là de dire je vais prendre sa parole et la transposer par écrit, c'est là que tu vois la force de justement. Puis c'est là que tu vois l'anthropologue, puis le génie anthropologique, j'oserais dire, de Serge Bouchard. Et pour répondre à ta question là, de base, qui était à quel point son changement de regard vous a influencé, moi, il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois que j'écoute Serge. Puis j'en parlais tout à l'heure par rapport au fait que c'est facile de voyager. À l'émission, j'arrête pas de parler de mon fameux voyage en Asie.
Ah, t'as-tu déjà fait ça? J'ai pas remarqué.
Oui, j'ai voyagé en Asie. Mais,
moi, j'ai déjà dit que j'étais allé au lac Saint-Jean.
mais pour vrai, moi, je retournerai pas faire un voyage comme je l'ai fait, puis c'est en partie à cause de Serge Bouchard. Il m'a ramené au Québec parce que quand on voyage, le fameux discours backpacker, je pars à la rencontre des gens. Ouais. Et tu ne peux pas rencontrer les gens pour vrai quand tu passes 3 jours dans un village. C'est pas en faisant une ville après l'autre que tu vas apprendre à connaître les cultures et tout ça. Et Serge Bouchard, à ce niveau-là, puis c'est justement, je vois vraiment l'aspect anthropologique derrière ça, il m'a ramené au Québec en disant, tu veux connaître les gens, ben il faut que tu aies un bagage culturel pour les connaître. Et à partir de là, je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire comme, OK, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui m'entoure, essayer de comprendre mes racines et sortir, mais toujours rester proche de ces racines-là. Et un bon exemple, tu parles de ton voyage au lac. Je suis allé, moi aussi.
C'est vrai?
Oui, j'étais avec toi. Oh. Je revenais de 10 mois en Asie et j'ai passé 3 semaines au lac. Et pour vrai, 3 semaines au lac, ça a été plus d'apprentissage. Pas 3 semaines, 3 jours. J'exagère vraiment. J'ai passé 3 jours au lac. J'ai eu plus de choc culturel, plus d'apprentissage culturel, je dirais, que 10 mois en Asie. Parce que déjà en Asie c'est gros en Moses, mais mettons que
j'étais pas accompagné en Asie comme ça là.
J'étais pas bien accompagné, voilà. Exactement. Ouais. Non, mais surtout comme il y a quelque chose, il y a moyen que je comprenne la culture des gens du lac, si on veut, parce qu'elle est quand même proche de la culture, mettons, des gens de la Beauce. Et dans les micro-différences, c'est là où il y a quelque chose dans lequel je peux faire comme, OK, là, j'ai quelque chose à faire, puis tout ça. Puis, et même à ça, bien comprendre le lac, faudrait que j'aille vivre là-bas pendant 7 ans, là, puis même après 7 ans, je ferais comme... Fait que, en tout cas, c'est, puis moi, c'est ça beaucoup qui m'influence dans la perception. C'est une très longue réponse, là, mais pour dire, de faire comme, je veux m'intéresser à quelque chose, ben, je vais m'y intéresser pour vrai.
Ben, justement, tu parlais du lac, si tu me permets une rapide métaphore aquatique, tu sais, c'est un petit peu comme si aller se baigner dans des lacs que tu connais plus ou moins. Puis, tu sais, le lac Saint-Jean, c'est un lac finalement que tu connaissais un petit peu plus. Si t'allais en Inde, c'était se baigner dans quelque chose. Non seulement c'était une trempette, mais en plus, c'était dans un lac que tu connais pas pantoute. Tandis qu'au lac, tu sais, si tu le lac Saint-Jean, si tu le connais un petit peu plus, ben déjà, genre, tu peux plus filer around, puis hey, c'était super en anglais, ça. Juste te promener, tu sais, t'es plus confiant dans te promener puis découvrir finalement cette étendue d'eau-là. Donc, je vais fermer ma métaphore aquatique et je vais nous envoyer vers la publicité, après laquelle on va écouter une chanson, François.
Oui, la chanson Les Anciens, c'est le groupe français Trio avec Tikenja Fokoli, donc une nouvelle version qui est sortie sur l'album 25, je crois, c'est l'année dernière. Et c'est une chanson qui nous dit qu'il faut écouter ce que les anciens ont à nous dire. Non seulement, ben, Serge, je crois qu'il serait d'accord au fait que je l'appellerais
un ancien,
oui.
un aîné, donc dans le sens très sage de la chose,
oui.
et aussi il serait d'accord qu'il faut écouter nos anciens.
Absolument. Merci François pour cette belle présentation de la chanson. Donc on va écouter des publicités suivies de cette chanson aux ondes de Chiz 94.3. À tout à l'heure.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez INCA.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Faire souvent inutilement. Et grand-père, tu me manques tellement. La sagesse et les repères, mes belles années d'enfant.
Grand-mère, je vais venir plus souvent. 38 ans sur cette terre, et je te connais pas vraiment. Et grand-mère, comment c'était avant?
Comment était mon père? Comment tu vois le présent? Laissez parler un peu les anciens et regarder le creux de la main, les lignes tracées par ce long destin nous laissent deviner une vie bien menée.
Et grand-père, c'est pas de l'abandon, c'est cette vie trop chère, la course des saisons. Et grand-père, excuse mon absence, mais j'ai tellement à faire que j'en oublie ta présence.
Hey, grand-mère, je... La vie passe si vite et j'ai peur de remords. Grand-mère, l'époque c'est pas nos familles et je vais tout faire pour stopper cet exil.
Laissez parler un un peu les anciens et regarder le creux de la main, les lignes tracées par ce long destin nous laissent deviner une vie bienvenue.
Et grand-mère, finissons ta vie ensemble. Tu es ma chère, je veux que l'on se rassemble. Et grand-mère, viens voir tes petits-enfants. Ils ressemblent à ma mère, ils sont de ton sang. Et grand-père, les familles se séparent. Et partout sur la terre, les enfants perdent leur repère. Et grand-mère, remontons le temps, on ira prendre l'air, profiter du moment. Laissez parler un peu les anciens et regarder le creux de la main, les lignes tracées à ce long destin nous laissent deviner une vie bienvenue.
Chose d'une simplicité terrible, c'est mon âge.
Ah oui, tout simplement, vous pensez?
Moi, je pense que les vieux impressionnent quand ils le veulent.
Ouais.
Quand un vieux a démissionné, il est plate, comme n'importe qui. Tu peux être plate jeune, tu peux être plate vieux. Mais quand tu t'aimes les gens, tu veux, puis tu mets ton expérience au service de la relation, je suis conscient que j'ai des choses, des choses à dire, puis que ça peut avoir de l'effet auprès de gens plus jeunes que moi.
Donc, re-bienvenue sur la planète des sages chez 94.3. Donc, on entendait un extrait de Serge Bouchard, encore une fois, et on a oublié de le dire et de le préciser, mais ça fait déjà, c'est genre le deuxième extrait qu'on met de cette émission-là. C'est un podcast de Guillaume Wagner qui s'appelle Wagner, auquel Serge Bouchard avait participé avec son collègue Jean-Philippe Plot, est allé à jaser avec Guillaume Wagner de toutes sortes de choses.
C'est précisément l'épisode 77. J'ai réalisé que c'est Serge Bouchard, puis entre parenthèses, et Jean-Philippe Plot. Pour Jean-Philippe.
Ben non, mais on devrait, je vote pour qu'on retire ces parenthèses.
On va faire une pétition, puis ça se peut que ça prenne du temps, parce que les changements dans la vie, ça prend du temps.
Ah.
Donc, j'ai choisi ces extraits, les amis, parce que, effectivement, Serge se fait dire, il y a des gens qui vous regardent comme parce que vous êtes un symbole de sagesse. Et évidemment, en étant la planète des sages, ben, on est un petit peu d'accord avec cet énoncé. Et lui, il dit c'est son âge. Et il y a un petit peu plus que ça, par exemple, de mon côté. Et ma proposition de pourquoi, de notre côté, autant de personnes voient Serge comme étant un être sage, c'est que j'ai l'impression aussi, ben c'est avec tous les éléments qu'on a abordés jusqu'à présent, mais j'en amène un autre, que c'est aussi, il semble être un personnage qui a vécu et qui continue à vivre une vie intègre. Quand je dis intègre, j'utilise authentique aussi comme synonyme, mais il semble avoir vécu une vie qui était vraiment en accord avec la personne qu'il est et qu'il cherchait à être. Donc, mais ça, évidemment, c'est le seul qui pourrait nous le dire exactement, mais c'est juste pour dire, il ressemble à ça. Il semble manifester ça, et je pense que c'est un des éléments pourquoi nous, on le voit avec tant de sagesse. Et quand je dis qu'il a vécu une vie intègre, il dit aussi qu'il n'a pas nécessairement vécu une vie facile, une vie heureuse. Dans ce podcast-là, il a déjà dit auparavant qu'il a été malheureux toute sa vie. Là, je dis pas qu'il a été tout le temps malheureux, mais tu sais, le malheur, ça fait partie de la vie. Et dans l'entrevue en 1999, on a mis un extrait, dit aussi qu'une belle vie, c'est une vie qui avait pas trop de souffrance. On allait limiter le niveau de souffrance. Mais d'une certaine façon, il en a vécu, mais tout ça pour dire, c'est qu'il a choisi une vie qui semble dure. Il a pris des chemins de travers, comme il l'a dit. Il semble rarement avoir pris le chemin de la facilité. Parce que quand on regarde son parcours, c'est pas tout le monde qui se dit bon, ben je vais aller vivre avec la communauté Innu de Mingan pendant une certaine période, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour être adopté par cette communauté-là, parce que c'est vrai, il est adopté par cette communauté-là. Donc ça doit pas être facile.
Oui, puis il y a plusieurs anecdotes d'ailleurs qui parlent de la difficulté que c'est d'entrer dans une communauté, puis comment il a marché longtemps en arrière là, puis c'est une épreuve à passer. Je prêche pour mon fameux thème de la lenteur, mm-hmm. mais c'est encore ça, je trouve.
Mais c'est un genre de but, ça, c'est un autre exemple de qui devait être très difficile et qui honnêtement quelqu'un qui prend le chemin de la facilité et qui prend le chemin de les scripts culturels qu'on a aujourd'hui là. C'est pas dans l'air du temps de dire tout le monde devrait aller voir ces communautés-là puis faire ces parcours-là. C'était un chemin qui on sait pas trop où prend ses racines-là, de qu'est-ce qui lui a amené à faire ce choix-là, mais ça reste qu'il l'a fait. C'est un choix courageux et moi je crois que cette somme de choix courageux-là qu'on fait dans une vie, ben ça nous mène à une vie intègre. Et malheureusement, parfois cette vie-là est difficile, mais il faut la choisir. Ben elle nous choisit peut-être. En tout cas, ça a l'air d'un gros cliché ce que je dis, mais tout ça pour dire c'est que je veux amorcer cette réflexion avec vous et j'avais besoin d'aide. Fait que je suis allé dans une théorie de psychologie. Et évidemment, le but, c'est pas d'expliquer le fonctionnement de M. Bouchard ou aucun être humain, c'est juste pour avoir une nouvelle perspective. Mais
puis de noter aussi que, tu sais, tout à l'heure, je disais que j'étais surtout formé par la littérature, étudiant en psychologie aussi,
français. C'est quand même pertinent de le dire c'est dans ça. Le contexte.
Mais donc, il y a jamais de la pensée de quelqu'un qui s'appelle Erik Erikson, qui est connu dans le monde de la psychologie. Oui, il y a un nom de viking, Patrick.
Suite, on l'a vu sourire.
Et donc, lui amène de cette idée-là que la vie d'un être humain, il a comme établi 8 stades psychosociales, donc les humains vivent des moments, donc que leur psychologie, leur psyché, ainsi que leur monde social est chamboulé. Et évidemment, de sa façon de l'amener, c'est pas nécessairement séquentiel. Les gens, c'est itératif, les gens y retournent et tout ça pour dire que la vie ne se résume pas à 8 stades. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il amène différents stades de la vie où l'être humain est confronté à des enjeux particuliers. Je donne des petits exemples. Quand on est très, très jeune, c'est d'apprendre à faire confiance aux autres, à développer des sentiments de compétence dans certaines sphères, de se trouver un but. À l'adolescence, ça est encore une fois, c'est un cliché, mais ça semble approprié. C'est de se bâtir une identité. C'est un grand morceau de l'adolescence, c'est de devoir se bâtir une identité. Et évidemment, ça continue. Mais il y a des moments de la vie qu'on dirait qu'on est centré un peu plus sur un enjeu particulier. Et je trouve ça intéressant de l'amener un peu plus loin parce que nous, on est des jeunes, de 25 ans maintenant. En tout cas, pour ma part, vous autres, vous êtes encore très jeunes de 24. Mais je nous propose, en fait, de faire un exercice d'empathie, de regarder un peu les stades ultérieurs qu'a amené Erikson. Et de parler du stade de que Serge Bouchard se situerait là, au niveau de la théorie. Donc, on parle de l'âge adulte avancé, 65 ans et plus. Le stade s'appelle l'intégrité versus ce qu'on appelle le désespoir. Là, je tourne dans les trucs un peu lourds. Là,
c'est un match de lutte assez lourd.
Oui, oui, effectivement. Vous savez que j'ai pas peur ni des conversations lourdes, ni de la lutte. mais c'est dans le fond, ce stade-là, il situe ces deux pôles, l'intégrité et le désespoir, sur un continuum.
Ouais.
Et que les gens, à cette période de la vie, doivent, il y en a qui le font, faire un regard, une perspective, un bilan de leur vie, parce que le temps commence à... Le temps qu'on a eu dans la vie, il a été plus écoulé qu'il en reste. Comme dirait mon grand-père, mon avenir est fait. Moi, il disait ça, mon grand-père, mon avenir est fait. Ça veut dire qu'il est rendu vieux, puis son avenir est fait. Ça me semble tout assez clair.
Oh oui.
Mais c'est un moment... ou selon la littérature, que on réalise qu'on a un peu moins de temps puis un peu moins d'énergie pour faire des changements dans notre vie, et donc on regarde la vie en se disant ok, le gros morceau que j'ai de la vie, c'est déjà fait, c'est le passé, c'est ce que j'ai déjà réalisé. Et donc il y a quelque chose de, je sais pas si vous êtes capable de vous mettre à la place de quelqu'un qui a des réflexions comme ça, mais c'est quand même, on parle de quelque chose de très très existentiel.
Ouais.
Ai-je vécu une bonne vie? Et si quelqu'un est d'accord avec la vie qu'il a vécue, on parle du pôle de l'intégrité. J'ai été intègre toute cette vie-là, je suis fier de la vie que j'ai faite. Et que ça nous dit qu'avec ça, on peut gagner une certaine force adaptative qui, dans ce cas-là, lui, a utilisé le terme « sagesse ». Donc, ça tombe bien avec ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Mais donc, quelqu'un qui a vécu une vie en harmonie avec ce qu'elle est, malgré que parfois c'était difficile, pourrait gagner de la sagesse. Et la personne qui aurait le malheur, et que j'ai peur juste à réfléchir, de arriver à un certain moment de sa vie puis de dire, t'as peu, là, j'ai-tu comme tout le temps menti à moi-même depuis tout ce temps-là? Puis là, je suis rendu à 65, 72 ans, je sais pas trop. Puis là, j'ai pas vraiment réalisé la personne que j'étais. Juste à réfléchir à ce type de questionnement-là,
ça fait peur.
Ça fait peur. Mais on peut s'en servir de cette peur-là.
Ouais, exactement. Je vois pas ça comme une porte fermée, on dirait.
Effectivement, parce qu'on peut, nous autres, on est 24, on a 25. Et il y en a d'autres qui ont peut-être, peu importe l'âge qui nous écoutent, mais c'est peut-être tout le temps, c'est peut-être pertinent de garder ces, même si ça peut être très, très théorique au niveau de la psychologie, ça peut être pertinent de s'en rappeler qu'à un moment donné, on va avoir peut-être ces enjeux-là en tête et que si on vit une vie intègre, on aurait peut-être la chance de ressembler un petit peu à Serge Bouchard. mais quand je dis ça, je dis pas on veut tout. Si on vit une belle vie, on va tout être des pros dans la vie des autochtones. C'est pas ça. C'est lui, c'est sa vie à lui. C'est lui qui a décidé. C'est ce qui l'a motivé. Mais chacun, on a nos propres chemins. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on peut être. Comment on peut être inspiré par Serge Bouchard, c'est justement c'est l'idée de vivre ce parcours-là.
Ouais, puis j'aime bien le dire que tu dis c'est inspiré parce que aussi c'est sûr on peut pas se prononcer sur comment que tu sais on n'est pas en train de tenter de
on
faire
dans sa tête.
C'est ça, non, on c'est fait ça. Pas une psychanalyse de Serge Bouchard. Mais c'est, là, sûr, c'est... De, mais c'est juste c'est ce qui est souffle c'est ce qui nous
oui, je transpire ça là.
Ouais, ouais c'est ça, tu sais c'est ça qu'on ça nous donne à aspirer à aller vers là sans justement qu'on sache réellement là, de lui face à lui mais nous face à lui c'est plus ça le
ouais, une figure d'intégrité finalement
c'est ça puis oui ça donne le goût puis tu sais le travail que tu fais je pense que il y a un moment dans sa vie où je pense que ça devient plus fort, mais on n'est jamais empêché de le faire. Moi, je sais que je le fais en permanence, en fait, l'espèce de travail de comme, OK, j'en suis où? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que je vais... C'est ça, je pense, la différence. C'est qu'à notre âge, il y a aussi le « est-ce que je continue à aller vers là? »
Exact.
Puis justement, c'est là que Serge Bouchard apparaît, de comme si ça devient inspirant, tu fais comme « Ah, ben peut-être que je vais un peu plus tirer vers là, vers Serge Bouchard, pas dans le sens de « je veux devenir lui, je veux être moi », pareil, mais il y a quelque chose dans Serge Bouchard qui...
C'est juste de voir le chemin parcouru, puis de voir « OK, moi, je suis peut-être sur un chemin similaire où j'aspire à light.
Puis, si je peux me permettre justement une intervention, on parle beaucoup du chemin, mais même quand t'arrives au bout, quand t'arrives au fameux cul-de-sac, c'est-à-dire face à la mort, tu sais, quand t'es très très proche de ça, il est jamais trop tard. Là. Moi, c'est ça que c'est quelque chose qui m'a marqué chez Serge Bouchard, c'est que tu sais, sa relation avec la mort, il est très honnête. Là. T'sais, c'est quelque chose qui est là, qui existe, puis ça va arriver à tout le monde. Puis je trouve ça m'a inspiré dans le sens où ça donne une comment je pourrais dire, ça donne une vision comme c'est une occasion finalement la mort. C'est le temps de dire ben tu sais ok peut-être que j'ai pas été tout le temps à 100%, mais au moins j'en suis conscient, puis c'est déjà mieux. Là.
Ben tu sais dans la vie d'artiste il y a le fameux fameuse émission d'archives là, dont on se réfère beaucoup. Il y a un moment où il dit tu sais je vais avoir le temps où on vit est moins gros que le temps où on vit pas.
Oui,
c'est une vérité de la palisse, là. Mais après ça, fait que dans ce style-là, lui, il dit, dans l'émission, c'est un peu marquant, là, il fait comme, fait que moi, il me reste jusqu'à, je pense qu'il dit 2025. Jusqu'à 2025. Ce serait logique. Bon, avec une bonne vie, 2025. Puis là, il fait, mais, d'ici là, faut que je charge ça, puis tu sais, il y a de quoi de beau de faire comme OK, j'ai juste ça. c'est ce temps-là qui m'est alloué. Puis je reviens à la citation tantôt, je l'ai pas cité littéralement là, mais c'est dans Les corneilles ne sont pas les épaules des corbeaux, sur un texte qui s'appelle Rimbaud, Géronimo, Mescocho, Baricot et mon père Roméo. Et c'est la sagesse consiste à affronter la vie comme elle est vraiment, une série de jours qu'il faut charger de sens. Puis je trouve ça fit beaucoup avec ça aussi.
Exactement. Et on parle de ce bel entretien qu'il y avait dans la vie de La vie d'artiste. En tout cas, je sais pas si c'est le nom de l'émission, mais j'avais trouvé un extrait qui pourrait peut-être continuer à alimenter cette réflexion-là de l'ordre de vivre une vie pleine de sens, mais aussi de vivre ce que c'est la grande responsabilité d'être un être humain. Alors, on écoute ça en ce moment.
C'est que ça aide bien, hein, avec son discours, avec ce qu'on fait. C'est pas, c'est vraiment la totalité de son humanité. Puis pouvoir se regarder à la fin puis dire, bon, ben, je me suis pas ennuyé. Mais vous savez, c'est énorme, c'est triste ce que je viens de dire, parce que c'est ça, c'est presque notre devoir de vie, là, c'est pas facile, être humain. C'est une maudite responsabilité.
C'est une maudite responsabilité, ouais. D'être humain, je suis d'accord. Et j'ai aimé cet extrait-là. Il y a quelque chose d'un peu émotif à ce moment-là également. Mais dans toute cette entrevue-là et dans tout le parcours de M. Bouchard, on voit aussi que autant c'est un grand humaniste, c'est quelqu'un qui semble être exigeant envers lui-même, mais aussi exigeant envers les autres d'une certaine façon, mais pas dans le sens... dans le sens qu'il aimerait ça voir tout le monde...
Un sens contrôlant, là. Non, dans un sens empathique, finalement.
Et que les gens réussissent à réaliser leur plein potentiel, puis que en tant que société, on soit tous un petit peu des meilleures personnes, parce qu'on sait que pris individuellement, c'est facile d'être empathique puis de dire à la personne c'est difficile. Mais quand on se regarde en gang, on est tout le temps, voyons, à la gang, me semble, on fait des fois, on n'est pas si brillant que ça. Mais c'est, on peut pas être, c'est difficile de travailler à ce niveau-là. Mais chacun, au niveau individuel, on peut faire ce travail-là et à la fois de se dire, je veux aspirer à être meilleur parce qu'à un moment donné, je vais avoir un jugement dernier de moyen, ma vie était-tu correcte? Puis parce que, et ça, j'aimais aussi cette analogie-là qu'il utilisait. Il disait, je me souviens plus quel type de fleur qu'il utilisait, mais une fleur, là, ça n'a pas à se soucier que ça va devenir une fleur. Ça va, à un moment donné, ça va faire sa floraison, puis ça va mourir, puis ça va devenir une fleur d'une façon ou d'une autre. Un être humain, ça peut se manquer. Ça peut ne pas devenir un être humain. Tu sais, c'est très intéressant. C'était super bien imagé.
Ça fait mal en plus. Un peu, là.
Mais ouais, puis c'est toute l'idée aussi que. Et puis dans encore une fois, c'est la même revue La Vie des artistes. Mais il parle, c'est la conscience. C'est fou à un moment donné qu'il disait ça. Mais le matin, il y a un humain qui a eu sa première pensée. Mais ça, c'est fou. S'imaginer ça. Ah, ouais. C'est fou. Il s'imaginait que c'était fou. Mais c'est ça. Le matin, une chance là. Mais non, mais c'est ça. ou dans La Vie des artistes, il parlait, après ça, il y a les autres trucs proprement humains. Il fait le premier homme et la première femme qui se sont regardés des yeux. C'est gros, là.
Qui ont dit, c'est quoi l'amour? OK, ouais, on vient de vivre le moment de l'amour. Ah, c'est ça, on va mettre un mot dessus. Tu sais, c'est fou de Patrick, merci. Mais de s'imaginer ces choses-là, puis cette vision-là capable de nous envoyer à des endroits qui alimentent des réflexions comme ça. Et cette notion-là de c'est une maudite responsabilité d'être humain, encore une fois, c'est bien dit, mais... Encore une fois, ça alimente la réflexion parce que d'être nous-mêmes, on a, tu sais, autant que c'est comme on veut le faire parce que c'est le fun pour nous, mais c'est aussi une responsabilité envers nous et envers les autres parce que c'est d'une certaine façon, comme je le disais, toute notre société est fondée sur plein de petits êtres humains qui doivent, au final, être une collectivité et on a une responsabilité envers les autres d'essayer d'être la meilleure personne possible et ne pas être méchant et d'essayer de tendre vers la sagesse. Mais je sais pas si c'est vécu autant par tous, ce genre de façon-là de concevoir l'amélioration d'un individu comme étant une responsabilité. Je sais pas de votre côté si c'est plus quelque chose de tant qu'à y être, on va essayer de jouer la game que ce soit le mieux, mais est-ce que c'est une responsabilité pour vous? Encore une fois, je tombe dans les questionnements plus lourds.
Ben, une responsabilité. Ben, Patrick, je pense que t'es un peu comme moi, tu sais, c'est... c'est ça. Tu sais, moi et Pat, on envoie des questions. Hey, tabarnache, François, tu nous creuses. Ben, je sais pas. Ben oui, absolument. Attends un peu, là. Je vais
mais je pense, pour rebondir, je pense que c'est une responsabilité peut-être par rapport... par rapport à moi, mais de plus en plus par rapport aux autres aussi. Puis je pense qu'il y a ça encore, là, on revient à, tu sais, aux deux segments qu'on a parlé avant, de, bon, d'une part sa vision artistique et après sa vision anthropologique. Je grossirais les traits comme ça. Puis dans tout ça, on dirait que, moi, c'est beaucoup ça qui ressort de comme, OK, cet homme-là aime les gens et j'ai le goût de bien aimer les gens. Et c'est là, je pense que, oui, je fais comme, OK, oui, puis je suis responsable. Je suis responsable de mon amour, si on veut. Mmh. Parce que, tu sais, c'est un amour sur lequel il faut se tenir dans un équilibre qui est difficile. Puis ça aussi, là, c'est encore... parce que je l'ai écouté hier, là, mais c'est encore le même passage. Quand même 50 belles minutes de Serge qui parle, là, la vie d'artiste. Et il dit quelque chose comme, tu sais, j'adore les gens, là, mais il y a des gens que je fais attention. Puis plus que je vais vieillir, plus que je vais avoir des armes, littéralement.
C'est d'être très lucide par rapport au potentiel humain, parce que le potentiel humain, j'en parle depuis tout à l'heure comme étant un beau potentiel, mais on les a tous, les potentiels.
Ouais.
On a du potentiel haineux, puis du potentiel minable. Ouais. Puis c'est intéressant aussi de se dire que tous ces chemins-là peuvent être pris, puis d'une certaine façon, d'aller vers le meilleur, c'est aussi de... C'est non seulement de vouloir aller vers le meilleur, mais c'est aussi, il y a quelque chose de, il y a de l'énergie à faire pour pas tendre vers le pire. Mm-hmm. C'est disponible. On a toutes des pires versions de nous-mêmes.
Mais justement, là, je me sens enfargé un petit peu dans mes idées parce que c'est ça, mon café commence à manquer d'effet un petit peu, là. Mais quand on parlait de responsabilité, justement, envers nous-mêmes, envers les autres, ben, je trouve que, puis c'est quelque chose que Serge a fait quelques fois assez fou, tu sais, tu penses à, les fameuses paroles bibliques de « Fais aux autres ce que tu voudrais te faire faire à toi-même ». Je suis pas mal sûr que ça...
Ça va à l'inverse. « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ».
Mais un taoïste dirait que c'est deux côtés de la même pièce, peut-être.
Ben, c'est ça. Mais finalement, tu sais, cette fameuse idée-là qu'on a recensée encore et encore, là, ben quand même, faut pas la sous-estimer, tu sais. Faut pas... Tu sais, c'est... Je veux dire, en tant qu'humain subjectif, c'est sûr que ça part d'une intention envers toi-même, mais quand même, là, je pense que c'est quand même important que ça soit intégré dans nos comportements, le fait qu'on prenne conscience des autres tout comme on prendrait conscience de nous-mêmes. Puis c'est sûr qu'il y en a que ça va être plus proche, dépendamment des affinités, puis il y en a que ça va être plus loin si on n'a pas du tout d'affinité. Mais quand même, moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel et de central, qu'on soit anthropologue, qu'on soit infirmier, qu'on soit camionneur, humain. Peu importe, qu'on soit humain, tout court, c'est exact. Ça.
Puis je vais peut-être faire un lien gros, là, mais je partirais de ta question de tout à l'heure sur plus l'influence que, mettons, Serge Bouchard peut nous emmener, là, de comme tendre vers le mieux. Serge Bouchard se réfère vraiment, vraiment souvent à un penseur qui est Vladimir Jankénévitch, que je n'ai pas encore lu, mais que je connais à travers Serge Bouchard, puis à travers des épisodes aussi, là, des chemins de la philosophie. Puis bon, je veux le lire éventuellement. Mais tu sais, Serge Bouchard dit souvent aussi, il n'y a pas eu une éducation catholique, mais clairement, il a été très influencé par Jankénévitch, qui lui réutilise beaucoup de concepts chrétiens. Mmh. Et tu sais, toutes ces idées-là, justement, t'as fait un lien avec ne fais pas aux ordres, mais aussi l'amour, la vertu de l'amour, l'authenticité. Tu sais, tu sens l'influence, puis moi, tu sens l'influence que ça l'a eu de ce penseur-là sur Serge, puis il en parle vraiment beaucoup. Puis je trouve ça beau parce que personnellement, quand Serge, je me souviens à un moment donné à une émission, il avait parlé de sa relation à Vladimir Jankévitch, puis j'étais comme waouh, c'est la relation que j'ai envers Serge. Mmh. Il a dit comme, moi j'ai pris un livre à un moment donné que j'avais, puis ça m'a fait du bien, puis j'ai senti que j'avais besoin de cette pensée-là, et je me suis mis à comme,
ça a déboulé.
Ça a déboulé, c'est ça, puis j'ai fait comme, c'est ça, moi j'ai ça envers toi, Serge. puis en tout cas, fait tout ça pour dire que je faisais le lien par la chrétienté, puis tout ça, mais tu sais, je trouve ça beau de voir ce filon-là de penser.